Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civiquement violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi. Aujourd'hui, nous allons parler sport. Le sport, une activité populaire. Populaire à deux titres. D'une part, parce qu'elle fait vibrer les foules, qui arrivent de nos jours à mobiliser régulièrement des millions de personnes derrière leur écran. En tout cas, ce n'est pas l'écologie. Populaire, d'autre part, parce que chacun d'entre nous peut s'y consacrer. Deux aspects de popularité qui ont été rapprochés par les Jeux Olympiques en leur temps. Aujourd'hui, en fait, ces Jeux sont plutôt ceux du cirque avec force attente mercantile et un moyen de divertir des vrais sujets de la population. Attardons-nous justement sur ces Jeux Olympiques. On pense en premier lieu aux Jeux antiques. Ils apparaissent autour du 8e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, et font partie d'un ensemble d'autres compétitions hellénistes. Les athlètes sont alors de véritables héros, des professionnels, et sont déjà autorisés à mettre leur aura au service des cités qu'ils souhaitent. Le mercato avant l'heure. On croit à tort que les Jeux Olympiques sont l'occasion d'arrêter les guerres. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Par contre, les Jeux Olympiques autorisent la libre circulation des athlètes de par les différentes contrées, même si elles sont en guerre. Mais que font-ils ces athlètes? Des épreuves hippiques, chars à deux ou à quatre chevaux, et des épreuves athlétiques dites de gymnastique. Course à pied sur plusieurs distances, lancer du disque, saut en longueur, lancer du javelot, pentathlon, la lutte, le pugilat ou le pancrace, une autre sorte de lutte. Par contre, ces jeux sont assez éloignés de l'idée de démocratie. Un serment olympique en 14 points régit l'organisation des jeux depuis 338 avant Jésus-Christ. En voici quelques extraits. Article 1, être sujet hellène, libre, ni esclave, ni métèque. C'est donc ouvert seulement à une certaine partie de la population. Article 5, interdiction aux femmes mariées d'assister aux jeux ou de se montrer dans l'Altis sous peine d'être précipitées du rocher de Tipaïon. Bon, visiblement, c'est aussi limité en termes de spectateurs. Défense de tuer son adversaire ou de chercher à tuer. Ça, c'était l'article 7. L'article 9, défense de l'intimider l'adversaire. Article 10, toute corruption d'arbitre ou d'adversaire sera punie. Bon, visiblement, le sport à l'époque avait quelques habitudes peu cordiales pour mériter de rappeler ces trois derniers points. Article 12, défense aux concurrents de manifester contre le public ou contre les juges. Tommy Smith et John Carlos y ont dérogé utilement pourtant. L'empereur Théodose Ier interdira les jeux au 4e siècle après Jésus-Christ en raison de leur caractère païen. Cette interdiction ne vise d'ailleurs pas spécifiquement les Jeux Olympiques, mais de façon générale les Jeux du cirque, dont ceux-là sont un événement particulier. Des Jeux du cirque qui sont remis au goût du jour depuis que le baron Pierre de Coubertin les a réintroduits. Mais même si souvent on prête à Pierre de Coubertin le rétablissement des Jeux Olympiques, en fait, c'est une tendance de fond de la fin du 19e siècle, avec une attente de recentrer l'éducation sur la discipline et le sport, dans l'objectif d'endurcir les corps, de fortifier les esprits et de préparer la jeunesse à combattre, d'après Jacques Thibault dans Sport et éducation physique 1870-1970. Les premiers Jeux Olympiques auront lieu en 1896 à Athènes. Les premiers Jeux d'hiver seront, eux, organisés pour la première fois en 1924 à Chamonix. Des Jeux qui promeuvent toutefois un peu plus les interactions culturelles entre les pays et veulent promouvoir les valeurs éducatives et universelles du sport. Cependant, on oscille entre vérité et légende. Pierre de Coubertin, cet homme qui a relancé les Jeux Olympiques, a quelque peu l'esprit olympique, mais pas que. Loin d'être un universaliste convaincu, il exprime des idées racistes, nationalistes et traite les femmes d'une curieuse manière. En tout cas, quand il s'agit du sport. Voici quelques citations de ce monsieur, Pierre de Coubertin. Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Une autre citation sur son rapport au colonialisme, à la suprématie blanche. De quel regard ému ne suivez-vous pas les hommes audacieux qui parcourent le continent noir et répandent vaillamment leur sang pour planter une fois de plus nos trois couleurs sur une case indigène ? Les races sont de valeurs différentes et à la race blanche d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. Alors certains de rétorquer que ce sont que des citations, que Pierre de Coubertin a œuvré autrement, qu'il a été ruiné, qu'il a évolué et bien d'autres raisons. On notera néanmoins cette citation quelques temps avant sa mort à propos des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu'ils viennent d'accomplir. Cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu'elles ont connu. Cela en parlant des Olympiades, bien entendu. En 1896, ce sont 241 athlètes de 14 pays qui participent à la compétition. Pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, on attend plus de 200 pays qui seront représentés par plus de 10 000 athlètes. On note une augmentation constante des investissements liés à l'organisation de ces Jeux. D'après Asterès, un budget global de 11,8 milliards d'euros, dont 5,2 milliards d'argent public, a été consacré pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et il paraît que ce sont des Jeux peu chers. 11,8 milliards. Certains diront que finalement, entre la TVA, revente d'infrastructures et cotisations sociales, l'État n'y perdra pas ou pas trop. C'est là justement que l'on peut se poser des questions. Quels ont été les investissements ? La construction d'infrastructures qui devront ensuite être réaménagées pour passer d'un usage olympique à un usage quotidien. Des infrastructures sportives certes, mais aussi des logements pour le village olympique. Autant d'espaces qui auraient pu être désartificialisés, autant d'espaces qui mobilisent des ressources minérales et énergétiques dont il aurait mieux valu se passer. Car il ne semble pas que l'agrandissement des villes soit une solution aujourd'hui. Au contraire, il y aurait besoin de moins produire de déchets, donc déconstruire les emplois des villes et reconstruire des emplois en zone rurale. Aider chacun à s'orienter vers des métiers utiles, bien plus nombreux en zone rurale qu'en zone urbaine. Aider ceux qui ont une vie de misère en zone urbaine à trouver de la quiétude. Tout l'inverse de construire de nouveaux logements en béton ou quoi que ce soit en ville. Et puis il y a ces infrastructures totalement inutiles, voire néfastes. Le comité de candidature Paris 2024 s'est engagé à organiser des jeux plus écologiques pour cette édition. Ils ont d'ailleurs pour cela réalisé un partenariat avec le WWF France afin d'organiser des jeux à impact environnemental positif. Cela signifie que les Jeux absorberaient plus de CO2 qu'ils n'en émettraient. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seraient alignés avec les accords de Paris afin de limiter leur impact sur l'environnement. Mais de qui se moque-t-on ? Suffit-il de dire que le soleil brille dans le ciel la nuit pour que cela devienne une vérité ? L'impact positif, même nul, cela n'existe pas. Construire en béton, soi-disant bas carbone, cela rejette du CO2 quoi qu'il en soit. Et pas qu'un peu. Les sites devaient être desservis en transport en commun, certes, mais cela produit aussi des émissions de CO2, bien moins utiles que de faire partir nos enfants en classe nature. Alors, il paraît que les repas servis seront bas carbone eux aussi, comme le béton. Ce que l'on pourrait interpréter comme étant peut-être des repas végétariens. Du coup, les sportifs habitués au carnet et les autres visiteurs, c'est sûr qu'ils vont manger végétarien du jour au lendemain comme ça. Ils ne vont certainement pas se rabattre sur d'autres sources d'approvisionnement et créer finalement autant de gâchis. Et puis, on peut s'exciter sur les repas, sur les transports en commun entre les sites. En attendant, le survol de Paris par hélicoptère a été autorisé. ADP, le gestionnaire des aéroports de Paris, compte d'ailleurs inaugurer un service de véhicules volants électriques à l'occasion des Jeux. Et les spectateurs ? Ils rejoignent Paris en montgolfière peut-être ? Non, ils prendront l'avion comme bon nombre d'athlètes. Et les repas ? Ce sont des clopinettes pour amuser la galerie à côté des émissions de ce poste, celui des transports. Pour participer aux épreuves de surf à Tahiti par exemple, les sportifs feront-ils la traversée en radeau comme sur le Contiki ou comme Alain Bombard ? Des épreuves de surf qui ont d'ailleurs fait jaser dans le milieu. Car le CIO exige que l'observatoire des juges soit en aluminium alors que l'existant est en bois et a déjà supporté bon nombre de compétitions internationales. Une nouvelle structure qui attaque un peu plus le corail. Ce corail magnifique qui a participé à avoir sélectionné ce site pour les épreuves. Il a donc été jugé utile de sacrifier la nature pour le plaisir de quelques spectateurs, un plaisir court terme. Certains surfeurs et surfeuses n'y assisteront pas, ils ont refusé de participer à la compétition dans ces conditions. Cette situation évoque toute l'économie des Jeux Olympiques modernes, bien loin de la simple expérience sportive et l'unicité des peuples. Il s'agit bien plus d'une entreprise mercantile. Le comité d'organisation a récemment publié une étude des retombées financières, près de 10 milliards d'euros. Et selon le communiqué, nous devrions nous en réjouir. En fait, on a injecté 10 milliards d'euros pour recevoir 10 milliards d'euros. C'est extraordinairement banal, non ? Encore heureux qu'il n'y ait pas eu quelques milliards qui se baladent dans les poches du Comité international olympique. Une organisation à but non lucratif dont les dirigeants reçoivent des salaires ou indemnités autour du million d'euros par an, d'après les services d'impôts américains. D'ailleurs, un récent article du Monde laisse à penser que le président du CIO, Thomas Bach, reste assez proche du maître du Kremlin, Vladimir Poutine, en personne. Le CIO reste une institution entachée de bon nombre d'affaires de corruption, notamment pour l'attribution de l'organisation des Jeux. Pour ces Jeux de 2024, le sponsor principal n'est autre que Coca-Cola. Ce pollueur irresponsable, que ce soit pour la dissémination de bouteilles en plastique de par la planète ou que ce soit pour l'accoutumance au sucre des populations. Un verre de Coca-Cola contient juste 5 morceaux de sucre, 27 grammes exactement. Bref, une plateforme des Jeux Olympiques pour assouvir la population, pour l'occuper à ne pas réfléchir et l'inciter à acheter toutes sortes de produits néfastes pour sa santé et l'environnement, tout en garantissant le fond de caisse de l'industrie du béton. Et bien entendu, ce qui est vrai pour les Jeux Olympiques reste aussi vrai pour tout le domaine du sport spectacle, que ce soit les compétitions de ski qui se déroulent sur neige artificielle dans le désert, un désert qui peut être en Arabie Saoudite comme en France dans les Alpes, que ce soit les Coupes du Monde de football dans des stades climatisés car il fait trop chaud dehors, que ce soit des courses à la voile à été comme la Coupe de l'Amérique à Barcelone, Barcelone qui est sans eau potable et où les habitants ont déjà du mal à se loger à cause du tourisme Airbnb.
Ce serait chouette les Jeux Olympiques. Si, nom de Dieu, il n'y avait leur petit drapeau, leur petit fanion, couleur kaki, cacaquo des frontières, leur petit drapeau pour chaque nation qui claque au vent d'une musique militaire. Ce serait chouette les souvenez-vous.
Vous êtes toujours sur CFM et vous écoutez les croissants des croissants. Aujourd'hui, nous parlons de sport. Dans une première partie, nous avons parlé du sport sous sa forme spectacle, une pratique du canapé télé qui a des répercussions importantes sur les écosystèmes et sur l'annihilation de toute réflexion dans la société. Il existe néanmoins d'autres pratiques du sport. Allez, commençons peut-être par celui qui a le moins de sens, pédaler dans une salle de sport ou encore pire, courir sur un tapis. En plus de ne pas profiter du paysage qui défile, courir sur un tapis demande de l'électricité pour faire rouler le tapis. Et puis, à quoi sert-il d'aller faire des steps pour finalement prendre la voiture, puis l'ascenseur une fois rendu à la maison alors qu'on pourrait très bien marcher et monter les escaliers ? La question est sérieuse. L'autre point intéressant à étudier est l'hyper-spécialisation des articles de sport. Avant, avec les mêmes chaussures, on pouvait courir, faire du vélo, crapahuter en montagne, jouer au football ou au basket. Maintenant, il faut autant d'articles que de sport. Comme si on était tous des champions et que nous étions tous à chercher les 10 millisecondes de performance grâce à la technologie. Alors que ce qui est important sur un vélo, c'est de pédaler, pas d'avoir les mêmes chaussures que Mbappé. En soi, faire du sport, ça ne fait de mal à personne. Sauf quand cela devient du sport de masse et que l'on souhaite s'affranchir de la nature. Quand on veut faire de l'escalade et qu'il pleut, on se retrouve à escalader des murs artificiels en salle. Et on en oublie que gravir une falaise, c'est aussi s'asseoir au milieu de la roche et contempler le paysage ou apprendre à renoncer. Quand on part pour skier, on laisse des traces de ski, mais aussi de fart et donc de PFAS et d'autres matériaux. Et puis s'il pleut ou qu'il n'y a pas de neige, on serait tenté de rentabiliser sa semaine de vacances à tout prix. Au prix de creuser des retenues d'eau, de pomper dans des sources, d'arroser les pistes avec de la neige artificielle. Ou pire, de recouvrir la montagne de bâches plastiques. Le changement climatique fait fondre la neige et menace le modèle économique des stations de ski. Bonne nouvelle et nouvelle idée, construire à la place des pistes en plastique pour skier non plus seulement en hiver mais tout au long de l'année. C'est le projet de la station d'Artoust dans la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce projet vient de recevoir le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine qui a voté lundi 13 mai une subvention de 76 000 euros pour la construction de cette piste sans neige, soit un peu plus de 20% du coût total, révèle le média Alpine. Dans cette zone classée Natura 2000, certains souhaitent ainsi construire une piste en plastique pour éviter d'utiliser de l'eau dans les canons à neige avec force électricité. Sauf que le plastique, cela demande de l'eau pour être fabriqué et de l'électricité. Et cela induit bien d'autres problématiques de pollution. Il s'agirait donc de construire une piste pour débutants de 200 mètres de long pour 15 mètres de large. Bref, un truc complètement nul en fait. On pourrait parler aussi de l'évolution de certains sports, comme par exemple le VTT. Apparu dans les années 70, ce vélo aux pneus renforcés permet de s'attaquer aux sentiers de randonnée notamment. Au propre comme au figuré. Bien moins que les motos enduro, certes, mais leurs pneus déchaussent les pierres et érodent les chemins. Certes, cela restait une pratique assez limitée, ne serait-ce que par l'effort à réaliser pour pédaler et pousser le vélo dans les côtes. Mais désormais, avec l'introduction du vélo à assistance électrique, c'est facile. Le moteur fait le gros du travail, ce qui ouvre la pratique et en repousse les limites. De plus, la présence de moteur fait qu'il y a au final bien plus d'efforts sur les roues contre le sol, et donc plus de chances d'abîmer le terrain. Si l'on comprend que pour se véhiculer, on puisse avoir besoin ou un intérêt dans l'utilisation du vélo assistant électrique, utiliser cet artifice dans un cadre loisir me semble plus difficile à justifier. Quel plaisir y a-t-il à gravir autrement que par ses propres moyens une côte ? Et ne peut-on pas combiner pédalage et marche à pied pour passer les difficultés ? Ne peut-on plus aider ses compagnons de route ou les attendre en haut du chemin ? Nos plaisirs deviennent bien étranges. Mais bon, on retrouve cet engouement pour l'artificiel et le polluant un peu partout. Quand on regarde nos stades de football nourris aux engrais, arrosés, rasés à la tondeuse autoportée, ou alors couverts d'herbes synthétiques ou de pneus déchiquetés, on voit que l'on s'en perd un petit peu dans le sport. Car jouer au foot, cela se fait avec des joueurs, une balle et 4 sweatshirts pour marquer les buts. Bon, il faut admettre, le basket c'est plus difficile. Même si au final, au fin fond du monde, on trouve un vieil arceau scellé dans un mur et un ballon qui rebondit sur la terre pour le plus grand bonheur des joueurs alentour. Des joueurs qui partagent surtout le bonheur de jouer ensemble. Le ping-pong, franchement, une table fait largement l'affaire pour le niveau assez médiocre de bon nombre d'entre nous. En fait, il n'y a pas besoin d'aller chez Decathlon acheter une table de ping-pong pour la mettre chez soi. En fait, pour le plaisir de jouer, il n'y a pas besoin d'infrastructures si démesurées. Mais bon, on est d'accord, mieux vaut investir dans ces infrastructures que dans l'autoroute A69 ou d'autres projets hors sol de ce type. Et puis, il y a un autre point de vue. On assiste à une multiplication du nombre de pratiquants. Par exemple, il y a de plus en plus de grimpeurs, il y a de plus en plus de randonneurs, il y a de plus en plus de coureurs à pied. Les sites sont donc de plus en plus fréquentés, ce qui peut nuire à leur stabilité naturelle. Les chemins s'érodent, les habitants naturels de falaises sont dérangés par les grimpeurs. Alors, mieux vaut peut-être offrir aux hommes des structures artificielles pour que la nature puisse finalement vivre sa vie dans son coin. Mais au fait, revenons-en aux sources. Pourquoi faire du sport ? Quand on bouge toute la journée pour son activité, que l'on court après les animaux, que l'on maçonne, que l'on se véhicule à pied ou à vélo, que l'on monte ramoner la cheminée sur le toit, on n'éprouve plus beaucoup le besoin de faire de la course à pied, de porter des poids, de rouler en vélocipède, de chausser ses chaussons d'escalade. En fait, on s'est déjà dépensé toute la journée. Alors, si en plus, on a scié son bois pour l'hiver ? Bon, si, on peut avoir envie de pratiquer du sport, mais pour sa part esthétique, ou le plaisir de taper ensemble dans une balle. Quant à la performance, on pourrait la laisser le plus souvent aux professionnels, car à part se dépasser soi-même, je ne vais pas prétendre passer sous la barre des 10 secondes aux 100 mètres ou essayer de frôler les sapins dans un slalom impromptu. Et quand sa vie est organisée avec la nature, il est vrai que toute forme de sport artificiel reste assez peu attrayant. Que ce soit de grimper sur des murs artificiels ou de pédaler le long d'une départementale fréquentée ou courir sur le macadam. Précédemment, nous avons évoqué la surfréquentation due aux activités sportives. Mais revenons-en encore une fois à la racine. Pourquoi a-t-on de plus en plus de pratiquants ? Peut-être parce qu'il y a de plus en plus de personnes hyper sédentarisées, hyper inactives, je parle de l'activité physique bien entendu, des personnes qui ont besoin dans leur peu de temps libre d'accéder à la nature, de se dépenser. Dans une économie post-croissance, ces populations ont peu de chances de perdurer. L'activité physique et le lien à la nature seront quotidiens, une raison supplémentaire de ne pas poursuivre à développer un business autour des sports de masse, des activités dont l'avenir est déjà compté. Alors, autant en plus ne pas transmettre aux jeunes générations l'envie d'assouvir ses besoins artificiellement et redonnons goût à ce que nos grands-parents pratiquaient avec plaisir.
N'écoutons pas les merveilles et les prédicateurs à lampe à huile.
T'as lu le monde, le Figaro?
Ouais. T'as lu l'équipe, t'as lu le métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Gavin Smith a écrit un article dans la revue Nature. Gavin Smith, c'est un des directeurs de la NASA, spécialisé dans les prévisions du climat. Dans cet article, il indique que les vagues de chaleur de 2023 ont dépassé la portée des modèles climatiques, c'est-à-dire que les modèles de climat tels qu'ils sont réalisés aujourd'hui ne sont plus adaptés, ne permettent plus de prédire de manière efficace le climat. Il s'interroge donc sur nos capacités aujourd'hui à pouvoir prévoir la météo à moyen et long terme. Pourquoi ? Parce que nous serions peut-être entrés dans une phase inédite de climat. Une affaire à suivre.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.